Radio Panique, c'est tout un système.
Videnco, épisode 19. En ce mercredi 18 janvier 2023, aujourd'hui, c'est la sainte Prisca. Prisca. Pose les deux pieds en canard. C'est la chenille qui se prépare. En voiture, les voyageurs. La chenille part toujours à l'heure. Accroche tes mains à ma taille pour pas que la chenille déraille. Tout ira bien si tu veux. Prie la chenille et le bon Dieu. Waouh. D'entrée de jeu. Waouh. Le bon Dieu d'entrée de jeu. Tout ira bien et si tu veux, prie la chenille et le bon Dieu. Ça nous laisse en pleine dubitation.
Dubitation, oui. Il s'agit de poser les deux pieds en canard, hein. C'est un verbe actif.
Alors oui. On peut aussi le voir comme une pause dans quelque chose qui s'arrêterait pour mieux reprendre. Il y a peut-être déjà un double sens dès le premier mot de ce recueil.
Tout à fait, parce qu'on nous invite à être en voiture, les voyageurs. et on fait des pauses quand on est en voiture.
Toutes les deux heures, la pause s'impose.
Tout à fait. Donc, il y a un mouvement, mais une invitation à la pause et à poser les deux pieds en canard, parce que la chenille doit redémarrer.
Alors déjà, on pensait que c'était la chenille, l'animal star de cette chanson, et pouf, dès la première phrase, le canard, comme qui dirait, lui vole la vedette.
Tout à fait, oui. On a un combat animalier, hein, si on lit ce texte de ce point de vue-là. Le canard est vraiment la vedette puisqu'il s'agit de l'imiter. Mais alors, où est la chenille ? C'est vrai que c'est une angoisse.
Elle est peut-être cachée dans un coin. Elle se prépare, en tout cas. Elle se prépare puisque la chenille est ponctuelle. La chenille part toujours à l'heure, nous dit-on.
Oui, je pense que le canard, s'il est la degré d'imitation, la chenille est bien présente en tant que sujet. Elle nous accompagne. Nous sommes le sujet en mouvement, nous imitons le canard, la chenille nous rencontre, mais elle est bien un sujet externe qui appelle la rencontre ici.
Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que cette chenille qui nous rencontre, nous allons devenir chenille ? Ou sommes-nous déjà chenille à cet instant-là du recueil ?
Je pense qu'il ne faut pas surinterpréter. On ne sait pas encore si nous sommes devenus chenilles. On sait qu'il y a une préparation, même un éloge à la société des transports, puisque nous sommes en voiture, les voyageurs, et la chenille déraille comme un train.
Donc là, on est un peu dans l'ambivalence. Est-ce qu'une voiture peut dérailler ?
Non, d'un point de vue technique, ce n'est pas possible, mais... on sent qu'il y a une transformation des transports. Voiture devient train, train devient métamorphose. Peut-être que la chenille est le transport.
Oui, la chenille au papillon, il n'y a qu'un pas. Du papillon à l'avion.
En tout cas, nous sommes dans une angoisse pré-transformatrice à ce moment-là, puisqu'on nous invite à prier. À prier le dieu chenille.
Le bon Dieu chenille,
tout à fait. Donc, ce texte commence avec une sensation d'angoisse.
C'est indéniable.
Thank you.
crois que je t'ai pas vue faire la petite ingénue avec Pierrot dans le tunnel. Allez, sois pas jalouse, c'est un copain, c'est tout. Tu sais que nous deux, c'est pas pareil. Bon, alors là, c'est à n'y rien comprendre et je vais avoir besoin de votre œil et votre oreille avisés sur cette partie. On est dans de la grivoiserie, hein.
Oui, très clairement, là, on a changé de registre. On est tout de même toujours dans notre logique de transport avec le chef de gare qui nous fait signe pour le départ. Mais on a l'introduction de nouveaux personnages.
Tout à fait, en la personne de Pierrot. Alors Pierrot, comment ne pas y voir directement une référence à la Commedia dell'arte ?
Tout à fait, oui. On a ce Pierrot qui intervient donc, avec sa référence classique. Mais Pierrot, il est où ? Il est dans le tunnel, donc un lieu lugubre, qui nous interroge toujours sur cette perception de l'angoisse. Mais qui s'adresse à celle qu'on appelle la petite ingénue, qui est cette petite ingénue qui ne doit pas être jalouse.
Alors, pour les auditeuristes, parce que moi, je fais souvent la confusion, ingénue ne veut pas dire génie, génial. C'est un petit peu l'inverse, comme qui dirait, ingénue égale naïve.
Tout à fait, oui, comme chez Voltaire. D'ailleurs, là, on est sur une référence à nouveau classique, très, très forte. Je pense que, d'ailleurs, on pense être sur un schéma de la grivoiserie ici, finalement, c'est un paragraphe assez érudit et qui fait référence au grand théâtre.
Oui, mais alors, quand même, et c'est là où je disais qu'on perd un peu les pédales, moi, j'ai un petit peu de la difficulté à comprendre « Allez, sois pas jalouse, c'est un copain, c'est tout. Tu sais que nous deux, c'est pas pareil. » Mais alors, si la petite ingénue est avec Pierrot dans le tunnel, de qui devrait être jalouse et pourquoi les deux ne sont pas pareils ? Qui lui parle et quel est le sens de tout ça finalement ?
Je pense que nous faisons face à un narrateur caché, tout à fait comme dans La recherche du temps perdu de Proust, ce narrateur fameux qui est caché mais qui est présent en permanence. On ne sait pas qui c'est ce personnage, mais on a un personnage qui s'adresse directement à la petite ingénue, qui s'adresse à nous et en qui il faut avoir confiance. C'est une question de confiance. Je crois qu'il ne faut pas se laisser perturber par l'angoisse du premier paragraphe. C'est vrai qu'il nous a bien heurtés, je suis bien d'accord.
Voilà, donc là on peut y voir peut-être une note un petit peu plus joyeuse, malgré la référence à Pierrot, quand même on le disait, le clown triste, qui ne se remettra jamais, que Colombine lui préfère Arlequin. Il en voit vraiment de toutes les couleurs.
Oui, c'est l'introduction, on va dire, un petit peu grivoise et brutale du thème de la jalousie, que nous connaissons bien, je pense, dans nos vies et dans la littérature. Mais moi, ma vraie question, c'est où est la chenille ? Est-elle encore présente ?
C'est vrai qu'elle a complètement disparu de ce paragraphe, ou alors elle est matérialisée entre cette espèce de ménage à trois qui serait comme les wagons de la chenille aux mille pattes.
Ou du train, parce que je pense que la chenille reste notre transport. Et peut-être qu'elle voit cette scène dans le tunnel, peut-être est-ce elle notre narrateur caché, ce train-chenille qui se déplace ainsi.
C'est une piste qu'il nous faut garder en tête lorsque nous poursuivrons.
Mais je pense que le paragraphe suivant éclaire particulièrement bien celui-là. Je pense qu'ils vont bien ensemble, oui.
Voulez-vous oui, le lire ?
Tout à fait. Et vous deux, les pipelettes, lâchez-nous les baskets. Avec vos histoires de nana, on va être en retard. Voilà le chef de gare qui nous fait signe pour le départ.
Ah, tout s'éclaire un peu, c'est comme une sortie de tunnel. Là, le mouvement. Et là, c'est vraiment ce moment-là. Chef de gare, Pierrot, même combat. Tout est beaucoup plus limpide. C'est indéniable.
C'est un grand texte. Prie la chenille.
Prie la chenille et regarde l'éléphant bleu.
L'éléphant bleu.
L'éléphant bleu qui danse sur l'arc-en-ciel, qui danse sur l'arc-en-ciel, sous les bravos des hirondelles. Viens là, le troubadour, je vais lire dans ta main tes joies, tes chagrins, tes amours. Alors là, c'est comme le bon Dieu en religion, on ne la sentait pas venir du tout, cette référence directe à la chiromancie. Hein ? Alors, ligne de vie, ligne de destin, ligne de chance, là, ça brasse large. Hein, ça brasse large. Et tout ça, avec le bravo des hirondelles, on en est déjà, je pense, corrigez-moi si je me trompe, au sixième animal évoqué depuis le début de cette œuvre.
Vous semblez oublier l'éléphant bleu.
Oh comment l'oublier
central sur cette strophe, oui, oui. Même, non, qui est l'élément surprenant, selon moi. Quoi peut-il bien faire référence? Est-ce une symbolique à nos, ou une référence directe à nos stations-service, l'éléphant bleu?
Et d'autant plus qu'il voyait son action dans la strophe suivante, il danse sur l'arc-en-ciel, nous dit-on.
Tout à fait. Mm-hmm. Alors, un éléphant qui danse, je pense que c'est une symbolique très forte, hein, si on fait référence à l'analyse des rêves chez Freud, hein, y a ce personnage de l'éléphant bleu qui danse, pas forcément sur l'arc-en-ciel, ainsi l'arc-en-ciel semble être un personnage aussi bien important.
Alors, vous voyez pas, si je peux me permettre quand même une espèce de redondance, parce que donc cet éléphant, nous dit-on, est bleu, il danse sur un arc-en-ciel, or il y a aussi du bleu dans l'arc-en-ciel, donc on est sur un drôle de ton sur ton. Veut-on nous dire quelque chose par là ?
Bien, je pense que le bravo des hirondelles peut éclairer la danse. Voilà,
nous y voilà.
Comme ça. Oui, oui. Ensuite, nous viendrons au troubadour, hein, qui a là une toute autre fonction. Mais un éléphant bleu qui danse ton sur ton, mais dans un dégradé de couleur totale. Hein, donc, on est quand même sur le soleil qui se retrouve là. Diffracté dans la pupille des voyageurs sur notre chenille train. Donc c'est une forme, je pense, d'hallucination. Hein. On peut voir là une référence plutôt indirecte au LSD, mais on a le transport sur cette chenille qui nous amène à voir des choses dans le ciel. L'espace ciel étant l'espace là qui intervient dans cette strophe, alors que nous étions sur un espace terre, hein, très, très terre à terre depuis le début, dans un tunnel, sur les rails.
Ancré.
Tout à fait. Là, on est dans une forme d'élévation. Je pense que le bon Dieu chenille a fait loi à ce moment-là du texte. Oui.
Alors, on est là dans les... puisqu'on parle des éléments... il y a aussi l'hirondelle, forcément, comment ne pas y voir aussi une éloge du printemps ? Ne dit-on pas l'hirondelle annonce le printemps ? Or, on sait bien qu'en ces temps de réchauffement climatique, il n'y a plus de saison.
Il n'y a plus d'hirondelle.
Et il n'y a plus d'hirondelle, de fait. Alors, on serait encore une fois dans le registre du chimérique, entre ces éléphants bleus et ces hirondelles.
Oui, tout à fait. Oui, je pense que là, on accède à une forme de mythologie dans le texte. Hein. On n'est plus au sol même. Le voyage en chenille nous permet une élévation vers des éléments chimériques. Et le troubadour intervient.
Ah, le troubadour, on y vient.
Vient là le troubadour. Ce a vraiment une importance, hein, dans la lecture de notre texte. C'est la première fois qu'intervient l'onomatopée. C'est le signe d'une forme d'élévation, ce
Je, première fois que le narrateur se... ou la narratrice...
Caché, excitant.
Oui. Je vais lire dans ta main tes joies, tes chagrins, tes amours. Alors ça, donc, bon, voilà, on est sur du rime très très riche, hein, troubadour, amour, hirondelle-main. Ah, hirondelle-main, riche. Tout est possible. Hein, tout est... Donc tes joies, tes chagrins, tes amours. Encore une fois, une interprétation assez libre de la chiromancie, hein, parce que dans la vraie vie, on ne lit pas la joie dans les lignes de la main, mais pourquoi pas. Tout est possible dans cet univers chenille. Hein. On sent qu'on passe un peu dans le vortex. Hein,
oui,
clairement. Clairement.
Tout en ayant un sujet jeu terriblement actif. Hein.
Oui,
il va lire.
Indéniablement.
Ta main, mais la main de qui? À qui s'adresse-t-il? Deuxième fois que je me pose cette question, à qui s'adresse-t-il? Que va-t-il se passer? Alors là, on peut soi-même, lectrice, auditrice, se dire qu'on imagine un couple hein, dans ce wagon train chenille qui se rapproche. On n'est plus dans la jalousie, on est... dans une forme d'immersion dans l'autre à travers cette lecture, dans les lignes de la main, une promesse d'un jeu narrateur qui va lire dans la main de l'autre. Une découverte.
Voilà, découverte. Et j'en reviens à ce mot troubadour qui vient de l'Occident, troubadour, trouveuse, trouveur, découverte. La boucle est bouclée.
Nous y sommes. Thank you.
ne dit-on pas que même les meilleures choses ont une fin ? On en arrive déjà à la dernière strophe de l'œuvre, peut-être le dénouement, et qui sait, un dénouement heureux, joyeux. Ça commence bien par une interjection. Hey ! Hey ! Point d'exclamation. Hey ! Hey, vous les amoureux, remuez-vous un peu. C'est pas le moment de roucouler. À la prochaine station, restez dans le wagon et n'essayez pas d'en profiter. Et vous les amoureux, remuez-vous un peu. C'est pas le moment de roucouler. À la prochaine station, restez dans le wagon et n'essayez pas d'en profiter. On en pense quoi ?
On avait bien pressenti hein, dans notre dernier commentaire que on était face à un couple d'amoureux dans le wagon de la chenille.
Alors quels amoureux hein, parce que il y avait du Pierrot.
Alors il y avait du Pierrot.
Il y avait du troubadour.
Il y avait du troubadour. Il y avait
la petite ingénue.
La petite ingénue. Les deux pipelettes. On ne sait pas.
Celle-là. Les hirondelles. Hein,
les hirondelles. L'éléphant bleu.
L'éléphant bleu. Comment l'oublier celui-là ?
Et le canard.
Le canard.
Premier personnage. Tout à fait. Même les baskets, hein, parce que on a bien vu les baskets et les pieds, quelque chose quand même d'assez dissocié des corps. Les mains, la taille, on est sur un vocabulaire du corps. Et là, les deux amoureux qui doivent se remuer un peu, qui roucoulent, il ne faut pas en profiter.
Voilà.
Alors là, un aspect moraliste assez fort, hein, qui nous rappelle Hume, qu'on reprendra peut-être plus tard, mais il y a une morale là dans le...
Voilà, on peut roucouler, mais ce n'est pas vraiment le moment. En fait... Il y a quand même une injonction productiviste à effectuer, donc la chenille, c'est-à-dire tous ensemble, mettre les mains sur les hanches pour redémarrer cette injonction permanente.
Mmh. Et cette proximité des corps amène à de la séduction. On voit tous les personnages se mélangent, se séduisent.
Roucoule, on a envie de dire. Oui. Roucoule, et alors encore une fois, l'allusion directe aux hirondelles et aux pigeons et aux tourterelles, tous leurs cousins, cousines. Saviez-vous d'ailleurs que roucouler, évidemment, c'était émettre un murmure tendre et doux, mais monotone.
Alors, je crois que la chenille nous invite à être... dans l'anti-monotonie, dans l'anti-ennui. Hein. Une forme de séduction serait bannie, celle de l'ennui. Il peut y avoir rapprochement. On nous invite d'ailleurs à être ce corps actif, ce train collectif, mais jamais monotone. Et d'ailleurs, on le sait bien, lorsque l'on se retrouve dans ces situations esthétiques collectives de performatives, de danse chenillesque, on ne s'ennuie pas. Et puis c'est d'ailleurs... l'anti-monotonie de la danse. Hein. On est dans une performance unie et à chaque fois unique.
La danse qui devient transe, et cette transe qui se répète sans s'épuiser, sans ennui, sans dépit. Comme c'est joli.
toutes les voix s'unissent pour applaudir en matière de style la chenille et pour blâmer la chenille. Nous sommes très prompts à appeler barbare tout ce qui s'éloigne de notre goût et de notre perception. Il se produit des événements ou une situation particulière qui tantôt jette sur les chenilles une fausse lumière, tantôt empêche la vraie lumière de communiquer à l'imagination le sentiment et la perception qui conviennent.
Bien, et si tu veux